Il est exactement 8h à Minova dans le sud Kivu et 7h à Mimosa à Kinshasa. C'est l'heure de nous informer.
Radio Kapi.
À la présentation, Blaise Shindani Kambala. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition, mais d'abord les titres de ce journal. Le monde a célébré la journée de la contraception hier vendredi 26 septembre. La province du Maniema a aussi commémoré cette journée à sa manière. Cette activité scientifique a été une occasion pour la société congolaise de la pratique sage-femme de montrer l'importance de planifier les naissances. L'opération identification et enregistrement des défenseurs des droits de l'homme œuvrant en RDC est en cours. Il a été officiellement lancé jeudi à Kinshasa par la CNDH. Cette structure étatique se conforme aux dispositions de la loi du 15 juin 2023 relative à la responsabilité et à la protection des défenseurs des droits de l'homme. L'invité de ce journal, c'est Jérémy Kiti, chargé de programme de l'ONG Jericho Hope and Peace. Il parle du projet Réponse en sécurité alimentaire en faveur des communautés affectées par la crise dans la zone de santé de Kirochi. Mais avant d'aller plus loin, sachez que les 3 des 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale visés par les pétitions sont sauvés. Il s'agit du rapporteur Jacques Njoli, la questeur Chimène Polipoli et la questeur adjointe Grace Nehema. Au cours de la plénière de ce vendredi consacrée à l'examen du rapport de la commission spéciale, cette instance dirigée par le député Peter Kazadi a conclu à l'absence de fondement des accusations. La commission a demandé à la plénière de déclarer ces pétitions recevables mais non fondées au regard des moyens de défense présentés par ses membres du bureau accusés de mauvaise gestion, chacun selon ses responsabilités. Ainsi, à l'issue d'un vote à main levée, la plénière a adopté les conclusions de la commission. Par conséquent, Jolie, Polipoli et Nehema sont réhabilités dans leurs fonctions. L'actualité, c'est aussi les sages-femmes qui étaient à l'honneur hier vendredi 26 septembre 2025. Le monde a célébré la journée de la contraception. La province du Maniema a aussi commémoré cette journée à sa manière. La structure dénommée Société congolaise de la pratique sage-femme s'est saisie de cette opportunité pour sensibiliser la communauté en vue de promouvoir la planification familiale au cours d'une conférence débat ayant pour thème la planification familiale, un droit pour tous. Les participants n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction à la suite des enseignements reçus. Florence Kizalunga était sur place, suivait son reportage.
Cette activité scientifique a été une occasion pour la Société congolaise de la pratique sage-femme de montrer l'importance de planifier les naissances. Annie Kamonya Manassé, présidente.
Nous avons parlé sur ça parce que nous avons trouvé que dans la province du Maniema, la planification familiale consistait encore à poser un problème. Donc c'est un problème à gérer de la santé de la mère et de l'enfant, voire même de la famille. Sont bien fondés et de la population à accoucher au moment voulu.
Message réitéré par l'oratrice du jour, Dr. Olive Mbamboula, médecin gynécologue obstétricienne.
On montre aux femmes quand même que la planification familiale est très très importante. On ne peut pas avoir un enfant par hasard, mais c'est un choix du couple. Donc nous avons cette liberté de faire la planification familiale. On a montré d'abord les différentes complications ainsi que les inconvénients en rapport avec les femmes qui accouchent sans planifier leur naissance, parmi lesquels il y a un problème de décès maternel.
Activité très saluée par les participants qui pour certains ignoraient encore. Témoignage.
Je n'ai jamais attendu ce genre d'enseignement dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai compris que la planification familiale est très importante. Parmi les méthodes, moi j'ai choisi la méthode de Sayana Prince pour 3 mois.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Puisque nous sommes dans le domaine de la santé, sachez que plus de 50 agences sanitaires viennent d'être formés sur la santé mentale et le soutien psychosocial à Butembo. Objectif de cet atelier, organisé par le bureau diocésain des œuvres médicales, renforcer les compétences des participants pour une meilleure prise en charge des patients et l'utilisation d'outils de diagnostic. Les participants et facilitateurs se sont évidemment dit satisfaits et espèrent mettre en pratique ces connaissances pour soulager la population touchée par l'insécurité et le conflit. Et puis, insalubrité persistante dans la ville de Butembo, le maire de cette ville du Nord Kivu tape du poing sur la table. Dans un document publié récemment, le commissaire supérieur principal Roger Moya Baekiteli déplore le non-respect des résolutions sur l'assainissement, notamment les dépôts d'ordures dans les poubelles prévues devant chaque boutique. Un ultimatum d'une semaine, à compter du 23 septembre dernier, a été accordé aux commerçants pour se conformer aux règles sous peine des sanctions. L'opération identification et enregistrement des défenseurs des droits de l'homme œuvrant en RDC est en cours. Il a été officiellement lancé jeudi à Kinshasa par la Commission nationale des droits de l'homme CNDH. Pour la première journée, plus de 40 défenseurs ont été enregistrés. Annoncé par la CNDH, depuis la semaine dernière, cette opération est illimitée dans la durée et va s'étendre dans les prochains mois en province. Sa mission, formaliser et sécuriser le travail des défenseurs des droits de l'homme en mettant en place un répertoire permettant de bien les identifier, comme l'a souligné son président. Le reportage est signé Jeff Ngoï Mulonda.
La CNDH se conforme aux dispositions de la loi du 15 juin 2023 relative à la responsabilité et à la protection des défenseurs des droits de l'homme ainsi qu'à l'arrêté du 25 novembre 2024 du ministère des droits humains. Selon Paul Nsapu, président de la CNDH, l'opération ne porte aucune atteinte à l'indépendance des DDH, mais apporte plutôt des garanties de protection nécessaires dans l'exercice de leur libre travail. Contrairement à ceux qui contestent cet enregistrement, plusieurs DDH rencontrés au siège de la commission affirme soutenir l'opération.
En tant que défenseur des droits humains, nous sommes très heureux, nous sommes un peu soulagés de cette activité qui vient de prendre le début aujourd'hui, dans le bon sens que les défenseurs des droits humains qui étaient menacés, tracassés et tués même seront bientôt protégés par la loi. Nous sommes en train d'appeler nos collègues défenseurs des droits humains de bien recevoir les messages et d'éviter toute péripétie qui peut être à la contre du projet.
L'effectivité de cette opération est le résultat et une récompense d'un long combat des DDH attendu par la CNDH depuis 2 ans de la loi y afférente.
Pendant ce temps, la chef adjointe de la Monisco s'insurge contre les discours de haine. Viviane Van de Peer s'est exprimée ce vendredi à l'occasion de la clôture de sa mission des 72 heures en Ituri. Elle a déclaré, nous citons, tout le monde doit s'investir dans la lutte contre les discours de haine. C'est la voie pour que la province retrouve la paix et la stabilité. Elle s'est rendue à Tchabi et Djina, deux entités des territoires du Rumo et du Djougou, où elle a rencontré différentes organisations de la société civile et inauguré des projets financés par la Monisco. Viviane Van de Peer a salué la collaboration entre la Monisco et les autorités militaires locales et a réaffirmé l'engagement de la mission onusienne aux côtés de toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour une paix durable en Ituri. On l'écoute au micro de Jean-Claude Lokidile.
On est en étroite collaboration, coopération avec le gouvernement, avec le gouverneur de Ituri. Personne ne peut régler tous les problèmes lui-même. Alors, on travaille en étroite collaboration. Et je me suis rencontré beaucoup avec les femmes, les sociétés civiles, les jeunes. Il y a un grand rôle à jouer pour la société civile parce que si le discours de haine continue, il n'y aurait jamais de la paix. Alors c'est un rôle pour tous les citoyens à jouer, surtout la femme, les jeunes, pour mettre fin à cette guerre. 30 ans est trop.
Restons en Ituri pour signaler la présence des rebelles des ADF et d'autres groupes armés dans les champs. En tout cas, ils empêchent les paysans d'accéder dans leurs champs dans la chefferie de Babila Bakwanza, en territoire de Mambasa. Conséquence, les produits agricoles se raréfient, les prix grimpent et la population s'enfonce dans la pauvreté. Reportage de Jean-Claude Lokidile.
Les paysans de la chefferie des Babila Makwanza vivent dans la peur. Beaucoup redoutent de se rendre dans leurs champs à cause de la sécurité, explique Rams Malkidogo, responsable territorial de l'ONG CRDH, Convention pour le respect des droits de l'homme. Résultat, plusieurs denrées alimentaires se font rares et les prix flambent sur les marchés. Rams Malkidogo en cite quelques exemples.
Donc, par exemple, les régimes de bananes qui se négocient à 5000 francs, 10000 francs, actuellement c'est 25 000 et 30 000. Et bah, c'est plastique de concept de manioc qui se négocie à 10 000 francs, actuellement c'est 25 000 et 30 000. Une mesurette de haricots, actuellement c'est à 1 500 francs qui se négocie à 700 francs, 500 francs, actuellement c'est à 1 500, 2 000. Une mesurette de riz à 1 500, 2 000. Ça coûtait 700 francs, 500 francs, tout au plus 1000 francs. Mais actuellement, le prix semble être doublé.
À cette insécurité s'ajoute la présence d'une dizaine de groupes armés dits Wazalendo. Ils ont érigé des barrières sur différents axes routiers, obligeant les habitants à payer jusqu'à 2000 francs congolais pour accéder à leurs champs. D'autres villageois, eux, sont contraints à des taxes hebdomadaires. Une situation qui appauvrit davantage la population et alimente la criminalité. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Capi.
Rien ne va non plus du côté du quartier Nyalukemba à Bukavu. Les habitants de ce coin du Sud Kivu vivent ces derniers temps dans la peur. Cette situation est la conséquence de la recrudescence des cas d'insécurité dans la zone. Les entités particulièrement ciblées par des hommes armés sont Lou Soji et Irambo. Obedi Mamvu, acteur de la société civile, revient sur le énième incident survenu ce vendredi matin au cours duquel des bandits ont braqué un commerce sur l'avenue Lushozi près du rond-point Feu Vert. Lors de cette opération, une importante somme d'argent a été emportée par ces hors-la-loi avant que l'un d'eux ne soit maîtrisé par les forces de l'ordre. Obedi Mamvu témoigne au micro de Ronéline Tibonera.
Il s'observe qu'il y a de nouvelles figures qui se sont infiltrées dans notre population ici à Nyalukemba et la population doit dénoncer à temps réel toute personne suspecte qui sera bien sûr considérée comme un infiltré dans notre quartier parce que nous avons tous un rôle à jouer, bien que la majorité revient bien sûr à l'État congolais, mais la population vraiment doit dénoncer à temps réel pour chercher comment trouver une solution par rapport à cette question d'insécurité. Voilà que malheureusement l'aide a été attrapé au niveau du Feu Vert et a été conduit au service de sécurité pour l'audition. Et c'est là que nous sommes en train vraiment d'appeler qu'il y ait des enquêtes sérieuses pour dénicher d'autres qui se sont volatilisés dans cette attaque de cet avant-midi ici dans notre quartier.
Plusieurs jeunes se battent à la rivière Njili dans l'est de Kinshasa chaque jour pour gagner leur vie dans les carrières des sables. Cette activité est devenue une source de survie et un vrai travail d'entrepreneuriat. Une équipe de Radio Capi est descendue sur place hier mercredi et a constaté le courage et la détermination de ces jeunes âgés entre 18 à 30 ans. C'est un reportage signé J.R. Kabamba.
Minés des pirogues, des bêches, des seaux en métal, ces jeunes travaillent dur pour extraire les sables. C'est le cas à la carrière par la foi, située à une dizaine de mètres de la route Sekoumaf. Selon Patia Zeba, les doyens de ce site, cette activité existe depuis 2001. Malgré la pluie, les difficultés, nous travaillons dur du matin au soir.
Notre activité consiste à extraire du sable pour les vendre. Cette carrière existe depuis 2001. Et nous faisons face à beaucoup de difficultés, rien que lors des récentes inondations, plus de 140 pirogues ont été emportés.
Mais ce travail est risqué. En plus, ils dénoncent le manque de matériel et l'épuisement physique. Et pourtant, plusieurs camions ben repartent chaque jour chargés de sable, indispensable aux constructions de la capitale, ajoute ce jeune. Profitant de la présence des médias, ces entrepreneurs de fortune lancent un appel vibrant aux autorités congolaises.
Nous demandons aux autorités de nous aider. Nous voulons que nos activités reprennent normalement. Nous espérons aussi que le chef de l'État pense à nous comme l'ancien président Kabila. À l'époque, nous aimons beaucoup le président Tshisekedi, car il est proche du peuple.
Ces jeunes prouvent que l'entrepreneuriat ne se limite pas au bureau, dans la sueur et dans la poussière des carrières. Ils montrent chaque jour que le courage et la persévérance peuvent transformer le travail dur en espoir et en autosuffisance.
Kinshasa toujours, le pont Ngunza sur la rivière Kalamu entre les communes d'Ngiringiri Kalamu et Makala menace de s'écrouler. Des usagers et autres riverains de cet ouvrage lancent un SOS car ce pont devient un danger permanent. Il faut dire que cet ouvrage s'est affaissé depuis plusieurs années et la situation ne s'est guère améliorée. à l'approche des pluies, riverains et autres usagers craignent le pire. Rachel Kalombe a visité ce coin de la ville de Kinshasa. Suivez son reportage.
L'affaissement de ces ponts a commencé petit. Aujourd'hui, quelques centimètres à peine séparent cet ouvrage des déchets plastiques qui recouvrent toute la rivière. Habituellement, l'eau des Kalamu stagne sur cet ouvrage. En cas de pluie, il est inondé. Pareil pour les maisons environnantes. Et quand cela arrive, il n'y a que les grands véhicules qui peuvent y passer. Il faut attendre la baisse des niveaux d'eau pour que les voitures, motos et passants s'y aventurent. Et même alors, la seule planche de salut pour les piétons est de raser la bordure du pont en s'accrochant au garde-fou dont les barres à moitié rouillées peuvent céder à tout moment. Pourtant, ce pont fait partie intégrante de l'avenue Lengesa qui traverse 5 communes. Mais lors de la construction de cette route, le pont n'a pas fait partie du contrat. Riverains et autres usagers lancent un SOS pour la construction des nouveaux ponts surélevés. D'autres plaident pour le tirage de cette rivière. Ils appellent aussi à la conscience des riverains. La rivière n'est pas une poubelle.
On puisse nous aider à curer.
Tirer la rivière, c'est la responsabilité de l'État. Mais la population doit avoir la responsabilité de ne pas boucher les caniveaux.
Le niveau de déchets sur cette rivière est tel qu'il est possible de la traverser à pied sans se mouiller.
Actualité internationale.
À Madagascar, le mouvement de protestation s'est propagé ce 26 septembre à plusieurs villes du pays, dont Diego Suarez, où des affrontements violents ont été constatés entre manifestants et forces de l'ordre. En plus de la capitale Antananarivo, plusieurs grandes villes du pays s'y trouvaient cette nuit sous couvre-feu.
L'invité.
L'invité du journal est Jérémy Kiti, chargé des programmes de l'ONG Jericho Hope and Peace, basée à Goma, au Nord Kivu. Depuis le mois de juillet dernier, cette structure encadre 500 ménages de personnes retournées dans le territoire de Masisi après des années passées loin de chez elles à cause de la guerre. L'encadrement s'est fait à travers le projet dénommé Réponse en sécurité alimentaire en faveur de communautés affectées par la crise dans la zone de santé des Kiroche. Jérémy Kiti parle de ce projet dans cet entretien réalisé par Kiss Mukand.
Jérémy Kiti, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Votre organisation implémente un projet dans le territoire de Masisi, en province du Nord Kivu. Voudriez-vous nous en parler?
Actuellement, nous sommes en train d'exécuter un projet intitulé Réponse à sécurité alimentaire en faveur des communautés affectées par la crise dans la zone de santé de Kiroche, au Nord Kivu. C'est un projet qui bénéficie des soutiens financiers du Fonds humanitaire à la République démocratique du Congo pour une durée de 8 mois à dater du 10 juillet. Alors, ce projet a pour objectif d'améliorer la sécurité alimentaire des communautés retournées dans la zone de santé de Kiroche en territoire de Masisi à travers les soutiens à la production agricole, l'assistance alimentaire d'urgence pour la protection des semences et le renforcement des capacités des communautés sur les bonnes pratiques agricoles. C'est un projet qui est financé à terme de 250 000 dollars. Le projet, en tout cas, repose sur 3 piliers. Le premier, c'est sur le renforcement des capacités des bénéficiaires sur les bonnes pratiques agricoles. Et là, nous organisons beaucoup de formations à faveur de nos bénéficiaires. Le projet cible 500 chefs de ménage dans 2 aires de santé, celui de Kimoka et celui de Murambi. Alors, donc, nous organisons des ateliers de formation, de renforcement des capacités de nos bénéficiaires sur les bonnes pratiques agricoles. Le deuxième pilier, c'est la distribution de la semence. Comme vous le savez, nous sommes à pleine période culturelle. Nous avons partagé, distribué des semences à faveur de tous nos bénéficiaires. Nous avons aussi partagé des outils aratoires qui accompagnent déjà la saison culturelle. Alors, le troisième pilier de ce projet, c'est la distribution de la ration alimentaire pour sécuriser les semences. Nous avons distribué la ration alimentaire à 500 chefs de ménage des bénéficiaires directs de notre projet. À chaque ménage, on a donné 40 kilos de céréales, donc la farine de maïs. On a donné 25 kilos de haricots et 5 litres d'huile végétale et a fait un paquet de 10 sachets de sel. Ça veut dire cette distribution a été faite déjà et le temps que nos bénéficiaires seront en train d'attendre leur récolte, nous envisageons aussi faire une deuxième distribution, les mêmes bénéficiaires avec les mêmes items d'ici fin novembre 2025. Le projet est déjà dans la communauté. Nous avons installé également les mécanismes de gestion des plaintes. Nous avons mis en place ces mécanismes déjà afin de permettre vraiment à nos bénéficiaires, dans le cadre des redevabilités, de nous monter les informations qui vont nous permettre déjà d'améliorer nos actions futures et éventuellement à corriger les erreurs qui ont été commises. Par exemple, quand on a fait la distribution, il y a des petites erreurs qui s'églissent, mais au moins avec les mécanismes de redevabilité, la mise en place de ces mécanismes-là, ça va nous permettre de nous rassurer que les actions que nous menons sur le terrain sont en train d'apporter une réponse adéquate par rapport aux besoins qui ont été exprimés par les bénéficiaires du projet lorsque nous avons fait l'évaluation des besoins.
Vous soutenez la relance des activités de champ en faveur de ces ménages retournés dans le territoire de Massissi. Ne se pose-t-il pas un problème de conflit foncier?
Depuis le lancement du projet jusqu'à ce stade où nous sommes, nous n'avons pas encore eu à enregistrer des cas de conflit foncier qui affectent notre projet. Et nous travaillons étroitement avec l'inspection territoriale de l'agriculture qui nous aide à faire le suivi sur les activités mais réalisées par nos bénéficiaires. Il nous accompagne pour l'encadrement de nos bénéficiaires. Nous aurions aussi souhaité vous informer que nous travaillons étroitement avec la radio communautaire de Sake dans le cadre de la diffusion des informations sur les activités réalisées dans la communauté. Nous avons mis en place un comité de gestion des plaintes qui nous permettrait déjà de remonter les informations sur les conflits dans la communauté, mais jusqu'à présent, on n'a pas reçu de plaintes dans ce sens-là.
Jusqu'à quand va durer cet accompagnement?
Je rappelle que le projet est exécuté sur une période de 8 mois à dater du 10 juillet 2025 jusqu'au 9 mars 2026.
Jérémy Kiti, merci.
Merci.
Vous l'avez compris, c'était notre invité Jérémy Kiti qui s'entretenait avec Chris Mokan et c'est ce qui met fin à notre grande édition du journal du matin, coordonnée par Jean Gando Kabongo et supervisée par Lévin Mbuingavubu et la mise en onde est assurée par Billy Landry Betou. Vous pouvez encore réécouter ce journal sur toutes nos plateformes digitales et sur notre site internet www.radiocapi.net. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Bon week-end chez vous.